La mort de Turine. Or, à l'instant même où Niniel prenait la fuite éperdue, Turine remua. Et du tréfond de ses ténèbres, il lui sembla l'entendre au loin qui l'appelait. Mais alors que Glaurung rendait l'âme, et Turine sortit de sa noire pâmoison, et il put à nouveau respirer profondément. Et il soupira, et tomba dans un profond sommeil. Mais peu avant l'aube, le froid se fit très vif, et il se retourna dans son sommeil, et la garde de Gurthung lui laboura le flanc, et soudain il s'éveilla. La nuit se dissipait, et la bise soufflait sur le matin. Il bondit sur ses pieds, se souvenant de sa victoire et du brûlant venin sur sa main. Et il la souleva et la considéra avec étonnement. Car elle était bandée d'un morceau de linge blanc encore humide, et elle ne le lançait plus. Et il se dit en lui-même, « Qui donc prend si bien soin de moi ?» Et cependant me laisse là coucher dans les décombres et la fétidité du dragon. Quels singuliers événements ont eu lieu ? Et il appela à haute voix, mais nul ne répondit. Tout était noir et désolé alentour, et il y avait un relent de mort. Il se courba et ramassa son épée, et elle était intacte, et l'éclat de son tranchant n'était nullement terni. « Immonde était le venin de Glaurung, » dit-il. « Mais tu es plus forte que moi, Gurthung. Il n'est point de sang que tu ne boives. La victoire te revient. Mais viens, il me faut quérir du secours. Mon corps est fourbu et le froid transit mes os. » Et il se détourna de Glaurung et le laissa croupir. Mais à mesure qu'il s'éloignait de ce lieu, chaque pas lui paraissait plus pénible, et il pensa « Anengirith, je trouverai sans doute quelques-uns des éclaireurs qui guettent mon retour. Que ne suis-je au plus vite en ma propre maison ?» où je recevrai les douces caresses de Niniel et les soins experts de Brandir. » Et c'est ainsi que, marchant à grand-peine et s'appuyant sur Gurthung, il atteignit enfin Nengirith dans la grisaille du petit jour. Et à l'instant même où certains se mettaient en route pour chercher sa dépouille, il se tint debout devant le peuple. Et ils reculèrent horrifiés, car ils croyaient voir son spectre tourmenté, et les femmes gémirent et se voilèrent la face. Mais il s'exclama, « Non, ne pleurez pas, mais réjouissez-vous. Voyez donc, ne suis-je pas bien vivant ? Et n'ai-je point tué le dragon qui vous terrifiait ?» Alors ils se tournèrent vers Brandir et lui crièrent, « Fou que tu es, avec tes contes mensongers ! Tu le disais gisant mort, nous savions bien que tu étais fou !» Mais Brandir était atterré, et les yeux écarquillés de peur, il regardait Turine sans pouvoir parler. Mais Turine s'adressa à lui, disant, « C'était donc toi qui étais là-bas et qui m'as soigné la main ? Sois-en remercié. Mais ton savoir fléchit si tu ne peux distinguer la pâmoison de la mort. » Et il se tourna vers le peuple. « Ne lui parlez pas de la sorte, imbécile que vous êtes. Qui d'entre vous aurait fait mieux ? Au moins a-t-il eu le courage de venir sur le lieu même du combat, tandis que vous restiez là à vous lamenter. Mais maintenant, fils de Andir, à nous deux, j'ai autre chose à apprendre de toi. » Pourquoi es-tu ici, et tous ces gens que j'ai laissés à l'Eiffel ? Si je puis aller affronter la mort pour vous sauver, ne puis-je au moins compter qu'on m'obéisse durant mon absence ? Et où est Niniel ? Puis-je au moins espérer que vous n'avez pas traîné ici, mais laissé là où je l'avais mise en sécurité en ma maison, et sous la garde d'hommes sûrs ? Et comme personne ne répondait, « Allons, dites-moi où est Niniel ! » s'écria-t-il, « car c'est elle que je veux voir la première. » Et à elle, la première, je compterai les exploits de cette nuit. » Mais ils détournèrent leur visage, et Brandir dit enfin, « Niniel n'est pas ici. » « Voilà qui est bien, » dit Turambar. « Je m'en vais donc chez moi. Y a-t-il un cheval pour me porter ? Ou mieux vaudrait une civière, car je défaille sous le poids de mes peines. » « Non, non, » dit Brandir, l'angoisse au cœur. « Ta maison est vide. Niniel ne s'y trouve pas. Elle est morte. » Mais une des femmes présentes, l'épouse de Dorlas, qui n'aimait guère Brandir, s'interposa d'une voix stridente. « Ne l'écoutez pas, seigneur, car il a perdu l'esprit. Il est arrivé en disant que vous étiez mort et que c'était une bonne nouvelle. Mais vous êtes vivant, alors pourquoi croire son récit au sujet de Niniel, qu'elle serait morte et pire encore ?»
Lors Turine marcha sur Brandir.
« Alors c'était une bonne nouvelle que ma mort, » s'exclama-t-il. « Oui, tu me l'as toujours bassement enviée, cela je le savais. À présent, elle est morte, dis-tu. Et pire encore, quel mensonge as-tu ourdi dans la vilainie de ton âme, pied beau ?
ne pouvant manier d'autres armes, as-tu résolu de nous tuer avec tes paroles atroces ?» Alors, dans le cœur de Brandir, la colère chassa la pitié, et il s'écria « Fou ! Non point ! C'est toi qui es fou, noir épée au noir destin, et tout ce peuple radoteur ! Je ne mens pas ! Niniel est morte, morte, morte ! Va-t'en la chercher dans le Teiglin !» Froid et immobile se tenait Turin. « Comment le sais-tu ? » dit-il doucement. « Comment l'as-tu manigancé ?»« Je le sais parce que je l'ai vu sauter, » répondit Brandir. « Mais les manigances viennent de toi. Elle a fui loin de toi, Turin, fils de Hurin, et elle s'est jetée de Kabed en Arras, afin de ne plus jamais te revoir, Niniel. Niniel ? Non pas, mais Nienor, fille de Hurin. » Alors Turin l'empoigna et le secoua. Car dans ces mots, il avait reconnu la foulée de son destin qui le rattrapait. Mais dans l'horreur et la fureur de son cœur, il se refusait à l'admettre comme une bête frappée à mort et qui blesse quiconque l'approche avant d'expirer. « Oui, je suis Turin, fils de Hurin, » cria-t-il. « Et cela, il y a longtemps que tu l'as deviné. Mais de Nienor, ma sœur, tu ne sais rien, rien du tout. Elle vit saine et sauve au royaume caché. C'est là un mensonge né en ton propre esprit infâme. » Pour troubler la raison de ma femme et la mienne à présent. Démon boiteux, nous pourchasseras-tu tous deux jusqu'à la mort ? Mais Brandir d'un geste brusque se dégagea. Ne me touche pas, dit-il, et cesse tes divagations. Celle que tu appelles ta femme vint à toi et te soigna, et tu ne répondis point à son appel. Mais un autre répondit à ta place. Glaurung, le dragon, qui, je le crois, vous a ensorcelés tous deux, vous liant d'un sort fatal. Et telles furent ses paroles avant d'expirer. « Nienor, fille de Hurin, voici ton frère, un meurtrier qui tue dans l'ombre, sournois envers ses ennemis, sans loyauté pour ses amis, et une malédiction pour sa famille, Turin, fils de Hurin. » Et Brandir éclata soudain d'un rire dément. « On dit que sur leur lit de mort, les hommes disent la vérité, » s'esclaffa-t-il. « Et un dragon de même, semble-t-il. » « Turin, fils de Hurin, maudite soit ta famille et maudit tous ceux qui t'ont accueilli en leur foyer !» Alors Turin saisit Gurthang et une lueur mauvaise s'alluma en ses yeux. « Et que dire de toi, pied beau ? » dit-il lentement. « Qui a dit à Niniel secrètement et derrière mon dos mon nom véritable ? Qui l'a exposé à la malignité du dragon ? Qui s'est tenu à proximité et l'a laissé périr ? Qui est revenu ici en toute hâte publier à grands cris cette horreur ? Qui s'apprête à exulter à mes dépens ? Les hommes, dis-tu, disent la vérité à l'heure de la mort ? Alors dis-la et fais vite !» Mais Brandir, lisant sa mort sur le visage de Turin, ne bougea point ni ne fléchit, bien qu'il eût d'autres armes que sa béquille. Et il parla ainsi. « Ce serait une bien longue histoire que de raconter tout cela, et je suis là de toi. » Mais tu me calomnies, fils de Hurin. Glaurung t'a-t-il calomnié ? Si tu me tues, il apparaîtra aux yeux de tous qu'il n'a pas menti. Et cependant, je ne crains pas de mourir, car j'irai alors chercher Niniel que j'aimais, et peut-être me sera-t-il donné de la retrouver par-delà la mer. Chercher Niniel, dis-tu ? S'écria Turin. Non, car c'est Glaurung que tu trouveras, et ensemble vous engendrerez des mensonges. Tu dormiras avec le ver, l'élu de ton âme, et tu pourriras avec lui dans les mêmes ténèbres. » Et il leva Gurthang et en asséna un terrible coup à Brandir, le frappant à mort. Mais les gens se cachèrent les yeux pour ne pas voir ce forfait, et comme Turin se détournait et s'éloignait de Nengirith, ils s'écartèrent de lui avec effroi. Et Turin s'en alla comme qui a perdu l'esprit, par les bois sauvages, tantôt maudissant la terre du milieu et toute la vie des hommes, tantôt appelant le nom de Niniel. Mais lorsque fut consumée la frénésie de son chagrin, il s'assit et médita tous ses actes, et il s'entendit pleurer. « Elle vit saine et sauve au royaume caché. » Et il songea que si à présent sa vie était ruinée, c'est là-bas qu'il lui fallait se rendre, car les mensonges de Glaurung l'avaient sans cesse fourvoyé. Aussi se leva-t-il et se dirigea-t-il vers les passages du Teiglin, et atteignant le Aun Eneleth, il s'écria « Combien j'ai payé durement, ô Finduilas, d'avoir prêté l'oreille aux dires du dragon. À présent, accorde-moi tes conseils. » Mais alors même qu'il criait, il aperçut 12 chasseurs armés de pied en cap qui franchissaient les passages. Et c'étaient des elfes. Et s'approchant, il reconnut en l'un d'eux Mablung, le chef des chasseurs du roi Thingol. Et Mablung le héla, criant «
Turin, te voilà enfin. Je te cherchais et suis bien aise de te voir vivant, même si les années ont pesé lourdement sur tes épaules. »
« Lourdement, certes, » dit Turin.
« Oui, aussi lourde que les pieds de Morgoth. Mais si tu es bien aise de me voir vivant, tu es bien le dernier en terre du milieu.
Mais pourquoi donc ?»«
Parce qu'on tenait ta personne en grand honneur parmi nous, » répondit Mablung. « Et bien que tu aies échappé à maint péril, je craignais pour toi à la fin. J'ai vu Glaurung surgir de son antre, et je pensais qu'ayant accompli son dessein inique, il s'en allait retrouver son maître. » Mais il se dirigea vers Brethil, et en même temps j'appris par les vagabonds du pays qu'on avait revu le noir épée de Nargothrond, et que les orques évitaient les frontières de Brethil comme la peste. Alors j'eus grand-peur, et me suis dit « Hélas, Glaurung va où ces orques ne s'aventurent point. Il va en quête de Turin. C'est pourquoi je suis venu ici au plus vite, t'avertir et te prêter main forte. »
« Vite, mais pas assez vite, » dit Turin.
« Glaurung est mort. »
Alors les elfes le considérèrent avec émerveillement et dirent «
Tu as tué le grand ver. Glorieux à jamais sera ton nom parmi les elfes et parmi les hommes. »
« Je n'en ai que faire, » dit Turin, « car mon cœur aussi a été frappé à mort. Mais puisque vous venez du Doriath, donnez-moi des nouvelles de ma famille, car j'ai appris aux Dorlomines que mère et fille avaient fui au royaume caché. »
Les elfes restèrent quoi? Mais après un temps, Mablung parla.
« C'est en effet ce qu'elles firent, l'année qui précéda la venue du dragon. Mais elles n'y sont plus à cette heure, hélas !»
Alors le cœur de Turin se figea, car il percevait une fois encore la foulée du destin fatal qui le poursuivrait sans relâche jusqu'à sa fin.
« Dis-m'en plus, » s'écria-t-il, « et sois bref !»«
Elles s'en furent à ta recherche en pays sauvage, » dit Mablung, « et ce fut au mépris de tout conseil. » Mais lorsqu'on sut que le noir épée n'était autre que toi, elles voulurent se rendre à Nargothrond. Et Glaurung se montra, et tous les hommes commis à leur garde se débandèrent. Nul n'a vu Morwen depuis lors. Quant à Nienor, elle fut frappée d'un sortilège de mutisme, et elle prit la fuite vers le nord, parcourant les grands bois comme une biche sauvage, puis disparut.
Alors, à la stupeur des elfes, Turin éclata d'un rire strident.
« N'est-ce point une plaisanterie ?
S'écria-t-il.
Ô belle Nienor, elle courut du Doriath au dragon et du dragon à moi. Quel doux présent du sort! Brune comme les murs était-elle et noire de cheveux. Petite et élancée comme une enfant des elfes, personne ne pourrait s'y tromper. »
Alors Mablung resta interdit et reprit.
Il doit y avoir erreur. Telle n'était pas ta sœur. Elle était grande et elle avait les yeux bleus, avec des cheveux d'or fin. La semblance même sous les traits d'une femme de Hurin, son père. Il est impossible que tu l'aies vue.
Impossible ? Impossible, Mablung ? S'écria Turin. Et pourquoi pas ? Car vois-tu, je suis aveugle. Tu l'ignorais ? Aveugle, aveugle et tâtonnant depuis l'enfance dans le sombre brouillard de Morgoth. C'est pourquoi tu dois me laisser. Va, va, rentre au Doriath et que l'hiver flétrisse ce pays à jamais. Maudit soit Menegroth et maudite ta mission. Cela seul manquait. Voici venir la nuit. »
Et il se sauva vif comme le vent, les laissant en proie à la peur et au désarroi. Mais Mablung dit
« Quelque événement étrange et terrible est survenu, dont nous ne savons rien. Suivons-le, et procurons-lui notre aide si faire se peut, car le voilà fou et l'esprit tout égaré. »
Mais Turin filait au loin, et loin devant eux, et il parvint à Kabed en Arrath, et là il s'arrêta. Et il prêta l'oreille au grondement des flots, et il vit que tous les arbres, tant proches que lointains, s'étiolaient, et que leurs feuilles flétries tombaient lugubrement, comme si l'hiver était venu en ses premiers jours de l'été.
« Kabed en Arrath ! Kabed Naelamarth ! » s'écria-t-il. « Je ne souillerai pas tes eaux là où Niniel fut engloutie, car tous mes actes ont été néfastes, et le dernier fut le pire. »
Et il dégaina son épée et dit «
Salut, Gurthang, acier de mort. Toi seul demeures désormais. Toi qui ne connais ni seigneur ni loyauté, hors la main qui te tient. Tu ne refuses aucun sang. Prendras-tu donc celui de Turin Tulambar? Me tueras-tu promptement?
Et de la lame s'éleva une voix glacée qui répondit « Oui, je boirai volontiers ton sang, afin d'oublier le sang de Beleg, mon maître, et le sang de Brandir, injustement tué. Je te tuerai promptement. »
Lors, Turin planta la garde en terre et se jeta sur la pointe de Gurthung, et la lame noire prit sa vie.
Mais Mablung arriva et contempla la forme terrible de Glaurung gisant mort, et son regard se porta sur Turin, et il s'affligea, songeant à Urin tel qu'il l'avait vu au Nirnaeth Arnoidiad et au terrible destin de sa famille. Et tandis que les elfes étaient là, rassemblés, des hommes vinrent de Nengirith, attirés par le spectacle du dragon. Et lorsqu'ils apprirent quelle avait été la fin de Turin, ils pleurèrent. Et les elfes, découvrant alors les causes du discours que leur avait tenu Turin, furent glacés d'horreur. Et Mablung eut ces paroles amères.
« J'ai pris part moi aussi au destin des enfants de Urin, et voici qu'avec mes paroles, j'ai tué celui que j'aimais. »
Ils soulevèrent alors Turin et virent que son épée s'était brisée en deux. Ainsi devait disparaître tout ce qu'il possédait. Bien des mains peinèrent à faire provision de bois, et ils l'entassèrent très haut et firent un immense bûcher. Et ainsi fut détruit le corps du dragon, réduit en noires cendres et ses os en poussière, et le lieu où il fut brûlé devait demeurer à jamais nu et stérile. Mais Turin fut enseveli sous un grand tertre, à l'endroit où il était tombé, et on déposa les fragments de Gurthung à ses côtés. Et quand tout fut terminé, les ménestrels des elfes et des hommes chantèrent un traîne relatant la vaillance de Turin et la beauté de Niniel, et l'on hissa une grande pierre grise que l'on dressa sur le tertre.
Et les elfes y gravèrent ces mots en runes du Doriath.
Turin Tulambar Dagnir Glaurunga. Et au-dessous, ils inscrivirent Nienor Niniel. Mais elle n'y était pas, et nul ne sut jamais où les froides eaux du Teiglin l'avaient emportée. Ainsi s'achève la geste des enfants de Urin, le plus long des laits du Beleriand.